Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Nous sommes en 1805 lorsque Napoléon, désormais empereur des Français et roi d'Italie, choisit son beau-fils Eugène de Beauharnais, âgé de 24 ans, pour une mission capitale. Le représenter à Milan comme vice-roi d'Italie, c'est une preuve de confiance inouïe. Et un véritable challenge pour Eugène qui, depuis l'enfance, admire tant son beau-père. Mais il devra travailler d'arrache-pied pour ne pas le décevoir. Revenons aux origines. Eugène de Beauharnais est l'aîné des deux enfants du vicomte Alexandre de Beauharnais, officier de l'armée royale, et de la créole Rose Tachère de la Pagerie. Il voit le jour à Paris en septembre 1781. Comme souvent dans les familles aristocratiques à l'époque, le mariage des parents a été arrangé. Ils s'entendent très mal et se séparent, alors que Eugène n'a que 2 ans. Quand les guerres révolutionnaires éclatent, Alexandre de Beauharnais, nommé chef à l'armée du Rhin, emmène son fils avec lui à Strasbourg. Pour le petit Eugène, cette ambiance militaire est une révélation. Tout y respirait l'amour de la gloire et de la patrie, se souviendra-t-il. Et c'est là que se développèrent en moi, pour la première fois, les impressions de ces sentiments. En 1794, nous sommes en pleine Révolution française. Les deux parents d'Eugène de Beauharnais sont emprisonnés. L'enfant a 12 ans, mais il se démène, sonne à toutes les portes pour les faire libérer. Malgré tous ses efforts, son père est guillotiné. Eugène se retrouve pris en charge par le général Hoche à l'armée de l'Ouest avant que sa mère Joséphine, libérée, ne le récupère. Eugène de Beauharnais termine ses études au collège irlandais quand un ordre du jour se répand dans Paris. Il devient défendu aux Parisiens sous peine de mort de conserver des armes chez eux. Eugène, qui a hérité du sabre de son père, ne supporte pas l'idée de s'en séparer et entame des démarches pour le garder auprès du général en chef de l'armée de l'intérieur, un certain Napoléon Bonaparte. L'émotion du jeune garçon touche Bonaparte, qui vient lui-même porter à Eugène l'autorisation si vivement désirée. Sa mère, Rose de Beauharnais, tient à remercier le général Bonaparte en personne. Charmé par sa beauté, il demande à la revoir. Cette rencontre romantique entre Napoléon et celle qu'il surnommera Joséphine, s'est-elle réellement passée ainsi? Nous n'en savons rien. Toujours est-il qu'ils deviennent amants, puis se marient. Pour Eugène de Beauharnais, l'avenir s'annonce bien. Nommé à presque 16 ans sous-lieutenant de hussards et aide-de-camp, il rejoint Napoléon Bonaparte en Italie. C'est une faveur, car la fonction est remplie d'ordinaire par des officiers plus aguerris. Entre les deux hommes, des liens forts se créent. Eugène de Beauharnais accompagne le général Bonaparte en Égypte, où ce dernier le protège autant qu'il peut. Un jour, alors que ce devrait être à Eugène de porter un ordre au cœur du Caire en pleine révolte, Bonaparte confie cette mission dangereuse à un autre soldat qui est tué pendant sa mission. De retour en France, Napoléon Bonaparte prépare un coup d'État. Eugène de Beauharnais y participe-t-il? Rien n'est moins sûr. Il prend du bon temps avec ses camarades, mais certaines mauvaises langues prétendent que sous ces dehors naïfs, le jeune homme serait une sorte d'espion à la solde de son beau-père. Napoléon, s'emparant du pouvoir, devient premier consul, puis empereur des Français en 1804. Eugène de Beauharnais a 23 ans le jour du sacre de sa mère et de son beau-père. Des rumeurs de divorce planent déjà car Joséphine, vous le savez bien Mathieu, n'arrive pas à donner un héritier à Napoléon. Mais l'affection que le nouvel empereur des Français porte à Joséphine, à Eugène, à sa sœur Hortense, l'empêche pour l'instant à se détacher d'eux. « J'aime ces enfants-là, confie-t-il, parce qu'ils se sont toujours efforcés de m'être agréable. S'ils se tirent un coup de canon, c'est Eugène qui va voir ce que c'est. Si j'ai un fossé à traverser, c'est lui qui me donne la main. » Il finira pourtant bien par divorcer de Joséphine quelques années plus tard. Napoléon ne peut désigner son beau-fils comme héritier puisqu'ils ne sont pas du même sang, mais il lui donne de nombreux gages de son affection. En 1806, il adopte Eugène de Beauharnais qui devient son fils, mais désormais aussi son Altesse impériale, le prince Eugène Napoléon. Peu de temps auparavant, il le nomme vice-roi d'Italie. C'est un cadeau empoisonné puisque Eugène se retrouve seul, loin de ses proches et dans un pays inconnu. Heureusement, un mariage heureux, bien qu'arrangé par l'empereur, l'aide à supporter l'éloignement. Eugène de Beauharnais fait la connaissance de la princesse Auguste de Bavière à Munich. Avant leur rencontre, on dit que l'empereur lui fait couper un peu sa moustache qui est très fournie. Eugène de Beauharnais se montre charmant, Auguste de Bavière est très belle. Tout se passe comme dans un conte de fées. Les deux jeunes époux tombent amoureux l'un de l'autre et ont rapidement un premier enfant, une fille. Mais Eugène de Beauharnais n'a pas le temps de profiter de sa vie de famille, car Napoléon compte sur lui en Italie. « Que je sache toujours où vous vous trouvez, où vous allez et ce que vous faites », exige-t-il. Et quand son fils adoptif lui donne des nouvelles, voici ce qu'il lui répond. « Votre lettre ne m'instruit en rien de ce que j'ai intérêt d'apprendre. Ou mieux, cela n'est pas travailler, c'est travailler en l'air. » En 1812, Napoléon lance la campagne de Russie. C'est un échec terrible. Les soldats souffrent du froid glacial, de la fatigue, de la faim. Napoléon, devant rentrer d'urgence à Paris, il confie le commandement de l'armée à son beau-frère, le maréchal Murat. Catastrophe. Ce dernier abandonne la campagne. Eugène, qui n'a que 31 ans, prend la relève, se retrouvant à la tête d'une gigantesque armée à bout de force. Au prix d'une remarquable retraite, Eugène de Beauharnais parvient à ramener l'armée en piteux état après les attaques conjuguées des Russes et des Prussiens. Après tant d'épreuves et de tensions, il a besoin de retrouver sa femme et ses enfants. Eugène de Beauharnais prend congé de l'empereur pour rentrer en Italie. Ils ne se reverront plus. Les ennemis de Napoléon s'allient et le forcent à abdiquer le 6 avril 1814. La chute de son beau-père et de l'Empire mettent fin à la carrière d'Eugène de Beauharnais. À 32 ans, le voilà retraité puisque de violentes émeutes en Italie l'obligent à renoncer à son trône de vice-roi. Présent au congrès de Vienne qui va décider des nouvelles frontières à l'intérieur de l'Europe, Eugène de Beauharnais espère obtenir une principauté à diriger. Mais une tentative de reconquête du pouvoir par Napoléon bouleverse ses plans. Soupçonné d'avoir aidé son beau-père, on le surveille de près. Sa correspondance est interceptée et 5 policiers demeurent en permanence devant chez lui. Eugène de Beauharnais n'évite l'arrestation qu'en donnant sa parole de ne plus quitter la Bavière, où le père de son épouse, le roi Maximilien, lui décerne le titre de duc de Leuchtenberg en même temps qu'il l'investit de la principauté d'Eichstätt. Eugène de Beauharnais se contente dès lors et jusqu'à la fin de sa vie de faire fructifier sa fortune et de veiller à l'intérêt de ses enfants. N'oublions pas tout à fait Napoléon, il enverra de grosses sommes d'argent pour adoucir son exil sur l'île de Sainte-Hélène. En 1823, il marie sa fille aînée, Joséphine de Leuchtenberg, au fils du roi de Suède, Charles XIV, il s'appellera Oscar. La fête donnée pour l'occasion est grandiose. On admire les magnifiques parures et bijoux de la mariée, héritée de sa grand-mère, l'impératrice Joséphine. Mais la fête est obscurcie par la santé chancelante d'Eugène de Beauharnais. Après plusieurs attaques, il s'éteint dans la nuit du 20 au 21 février 1824. Pour résumer sa vie, le célèbre poète allemand Goethe a ces mots. C'était un bel homme d'environ 42 ans, mais qui paraissait plus âgé. Et cela ne peut étonner quand on pense à ce qu'il a souffert et quand on se rappelle sa vie, où campagnes et grands faits se succèdent sans interruption.
Europe 1, historiquement vôtre.